Bonjour à tous. J'aime voir la façon dont le Seigneur a conduit cette présidence et aussi vos prières. Parce qu'on a entendu à de nombreuses reprises ce refrain qui revenait du rachat de nos péchés, de la grâce de Dieu qui nous a été faite. Alors peut-être que c'est parce que j'ai préparé cette prédication sur la grâce que je l'ai entendu particulièrement, mais je pense surtout que nous l'avons tous mentionné, parce que c'est l'un des points capitaux de notre vie et de notre marche avec Christ. La grâce de Dieu. Sans cette grâce, où serions-nous ? Et ce matin, donc, je me retrouve avec vous pour parler de ce sujet, de la grâce. Donc, c'est le début, la première prédication sur une série de 4 prédications qui vont être donc, sur la lettre de Paul aux Romains. Et donc, c'est vrai que j'ai ce plaisir de commencer, d'entonner avec vous le parcours de quatre dimanches. Donc, sur cette épître de Paul aux Romains, je pense qu'il est important de situer le contexte. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'église de Rome n'a pas du tout été fondée par Paul. D'accord ? Donc au moment où il est en train d'écrire cette lettre pour les Romains, Paul se trouve à Corinthe. D'accord ? Et il se trouve qu'il a vraiment une vision d'évangélisation globale du pourtour méditerranéen, donc de la Gaule et de l'Espagne. Et quelle meilleure base que l'église de Rome pour pouvoir continuer et poursuivre sa mission d'évangélisation, notamment de l'Espagne ? Cette lettre remplit un double objectif. Le premier est de contrer une doctrine qui commençait à se répandre parmi les chrétiens, et notamment qui était répandue par des personnes qu'on appelait les judaïsants, c'est-à-dire des chrétiens d'origine juive, et qui cherchaient à introduire les rites juifs comme un moyen de louer Dieu, et en disant que c'est nécessaire de suivre ces rites pour louer Dieu. Et donc Paul cherche à contrer cette doctrine-là qui vient. Et le deuxième objectif de cette lettre, c'est de pouvoir justement réaffirmer l'évangile qu'il va proclamer pour être sûr qu'ils sont bien sur les mêmes bases. Quand il va devoir évangéliser en Espagne, quand il va devoir continuer sur le pourtour méditerranéen, il veut être sûr que l'Église qui le soutiendra puisse être en plein accord avec lui sur l'évangile qu'il va proclamer. Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Romains, il n'hésite pas à parler de « mon évangile ». Alors ça pourrait nous choquer, on se dit « mais c'est l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ ». Mais quand il parle de « mon évangile », il est simplement en train de parler de ce qu'il va proclamer. Il est en train d'affirmer « voici ce que je vais dire ». Et donc c'est vraiment là-dessus que Paul va insister. Il cherche à avoir une collaboration fructueuse avec cette église de Rome. Et il est parfois étonnant, quand on voit cette lettre, de se dire, mais de quelle autorité il parle ? Il n'a pas fondé cette église. Et finalement, qui il est pour affirmer des choses avec tant de conviction à ces personnes de Rome ? Et en fait, il faut voir que dans l'église de Rome, il y a des personnes qui connaissent Paul. Notamment Priscille et Aquilas, qui le connaissent bien, qui ont travaillé avec lui en Asie mineure. Et on voit à la fin de l'épître de Paul aux Romains qu'il salue nominativement plus de 25 personnes. Donc ça n'était pas un inconnu pour les gens de l'église de Rome. C'était quelqu'un que l'on connaissait et que l'on respectait pour son travail. Nous, on va commencer fin du chapitre 5, on va prendre le début aussi du chapitre 6. Et avant cela, Paul vient de parler dans les chapitres précédents de l'état de l'humanité. Il a fait un constat sur l'état de l'humanité en présentant que c'est un constat qui est triste. L'homme est pécheur, fondamentalement pécheur. Et il a beau faire ce qu'il veut, il est pécheur. Et ça, c'est une première chose que Paul a présentée dans les premiers chapitres. Paul présente aussi, par définition, si nous sommes pécheurs, nous avons besoin, pour nous réconcilier avec Dieu, d'un salut. Et ce salut vient par la foi. Et c'est ce que Paul présente aussi dans ses chapitres précédents. Et en exposant la doctrine, Paul utilise fréquemment un terme. Et ce terme, c'est « loin de là ». Donc il pose une question qui est une question rhétorique, et il va pouvoir casser toute idée préconçue ou toute mauvaise interprétation de ce qu'il est en train de dire par cette formule « loin de là ». Et le thème que nous allons traiter aujourd'hui pourrait être... Alors, je ne sais pas si... Normalement, ça devrait marcher. Hop là, merci. Bon, ça va se relancer, peu importe. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est « allons-nous pécher puisque nous sommes sous la grâce ?» Et là, Paul pourrait répondre « loin de là ». Nous allons voir que c'est une question qui est importante parce que les chrétiens se posaient à l'époque cette question. Et Paul veut répondre vraiment à cette question et tuer l'idée dans l'œuf que nous pourrions pécher parce que nous sommes sous la grâce. On a parlé du double objectif de cette lettre. Et en fait, dans cette doctrine qui était répandue, comme quoi nous devions faire des choses pour accéder à Dieu, il y a un peu cette notion du bâton et de la carotte. Comme si nous devions faire des choses pour pouvoir accéder à Dieu. Et ce n'est pas ce que nous dit la grâce. Paul luttait vraiment contre la notion d'un salut qui venait par les actes, qui venait par nos œuvres. Il remet vraiment les choses dans leur contexte, à leur bonne place, et il dit « Non, le salut vient de Dieu. » Et c'est vraiment lui qui a tout accompli. Et lorsque nous avons pleinement compris cette grâce qui nous a été faite à notre conversion, on pourrait réfléchir à l'attitude que nous devons adopter vis-à-vis de cela. Est-ce que chez nous, cela engendre quelque chose, cette grâce? Est-ce qu'on se dit juste « Bon, ok, je suis gracié, c'est bon, j'ai plus rien à faire. » Ou est-ce que, vraiment, il y a une compréhension à avoir de cet état de grâce dans lequel nous sommes? Et je vous propose donc de lire Romains, chapitre 5, verset 17, à chapitre 6, verset 18. Donc c'est une partie, une péricope qui est un peu longue peut-être, mais il me semble important de pouvoir la lire dans son entier. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a des Bibles au fond, d'accord? Donc David est à votre disposition si vous avez besoin d'une Bible pour pouvoir suivre et que vous n'en avez pas. Donc il est juste au fond, vous avez juste à lever la main et puis il pourra vous en passer une. Donc Romains, chapitre 5, pardon, verset 17, jusqu'à Romains, chapitre 6, verset 18. « Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Loin de là. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans notre corps mortel pour nous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. Et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclave du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Et une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Dans ce passage, on peut voir qu'il y a deux fausses raisons de croire que l'on peut pécher librement. Et Paul combat ces deux fausses raisons. Premièrement, on pourrait penser que pour ou parce que le péché abonde, nous allons continuer à pécher pour faire surabonder la grâce. Ça peut paraître fou, mais ça pourrait être une idée qui sortirait de cela. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Si on pêche beaucoup, la grâce surabondera encore. Et là, Paul combat cette idée. Une deuxième idée pour laquelle nous pourrions pécher, c'est parce que nous ne sommes plus sous la loi. Si nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, ben quelque part, quoi que l'on fasse, on peut le faire tranquillement puisqu'on est sous la grâce. Et Paul combat aussi cette idée. Donc nous allons voir ensemble la première partie. Pécherions-nous afin que la grâce abonde? À cette question, Paul répond loin de là. Et ça peut paraître une évidence pour certains d'entre nous. Nous pouvons voir que cette affirmation qui nous est donnée peut être plus insidieuse que nous le pensons. Oui, ça serait facile de dire avec notre bouche « Mais non, on ne va pas pécher pour que la grâce abonde. » Mais est-ce que parfois, dans notre comportement, nous n'agissons pas comme si nous pensions cela, finalement, dans notre cœur. En effet, à la suite de la lecture de la fin du chapitre 5, on voit que par un homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Et par un seul, Jésus-Christ, la justification s'étend à tous les hommes. C'est ce qui nous a été lu par Jean-Marc ce matin. La justification s'étend à tous les hommes par Jésus-Christ. Alors vient ce verset, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est une question qu'on peut se poser. Peut-on impunément persister dans le péché pour que la grâce continue à abonder? C'est vrai que c'est d'une importance capitale pour notre vie chrétienne de bien comprendre cela. On ne peut pas continuer à pécher impunément en se disant que la grâce va continuer à abonder et juste parce que nous sommes couverts par la grâce, continuer à pécher impunément. On imagine aisément une petite main timide qui pourrait se lever dans l'assemblée et qui dirait « Oui, mais si notre salut dépend d'un seul, Jésus-Christ, et que c'est un don gratuit de Dieu, si c'est un don qui ne s'acquiert que par la foi seule, et que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, finalement, je peux vivre ma vie comme je l'entends. » Et là, Paul répond « Loin de là. » L'idée défendue serait que comme c'est Dieu qui est à l'origine de notre salut, et c'est une vérité, alors, dans notre comportement, cela peut ne rien changer. Alors, parce que oui, Dieu a couvert, nous on peut agir comme on veut, quoi qu'il arrive, c'est l'œuvre de Dieu. Et on va voir qu'en fait, Dieu nous inclut dans son plan, et qu'il y a un changement qui va s'opérer en nous par la grâce de Dieu. Il expose clairement ses arguments par la suite. Il dit, par la mort de Christ, nous sommes morts au péché. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Paul, d'une seule phrase, ici, va rejeter énergiquement l'idée que nous pouvons continuer impunément à pécher. Il dit, nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre dans le péché? Nous qui sommes morts pour le péché, si c'est une réalité dans notre vie que Christ est mort pour nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous continuer à pécher? Comment pourrions-nous vivre, pardon, dans le péché? Le péché ne nous condamne plus, car Jésus-Christ a payé le prix pour nous à la croix. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Mais est-ce que cela fait du péché quelque chose d'insignifiant ou d'anodin dans notre vie? Sûrement pas. C'est à cause du péché que Jésus est mort. Si nous accordons de la valeur au sacrifice de Jésus-Christ pour nous, si nous comprenons que Jésus-Christ est mort pour notre péché sur la croix, nous ne pouvons pas considérer le péché comme anodin dans notre vie. Le péché est la raison pour laquelle Dieu a dû sacrifier son propre Fils. Et ça, si on le réalise, ça change complètement notre perspective sur le péché. Le péché n'est pas anodin. Ce n'est pas juste quelque chose dans la vie du chrétien qui est sans importance. Nous pourrions nous dire que « Oui, mais de toute façon, je continue à pécher parce que je ne suis pas encore régénéré, donc pour l'instant, je n'ai pas le choix. » Et en fait, on va voir que Paul dément cette affirmation. On a le choix. Et c'est quelque chose de très important. Dieu, dans sa parole, nous appelle à être saints. Il nous est dit dès l'Ancien Testament, « Vous serez saints car je suis saint. Vous êtes mon peuple et vous serez saints car je suis saint. » Pourquoi Dieu nous appellerait à être saints? Pourquoi Dieu nous appellerait sur ce chemin de la sanctification qui est l'un des buts de la vie chrétienne? Pourquoi Dieu nous appellerait sur ce chemin si nous ne pouvions rien faire face au péché? Si Dieu nous appelle à vivre une vie sainte, c'est parce qu'il nous donne le moyen de le faire. Et ça, c'est important de le comprendre. On peut imaginer cette image avec une chaise toute simple. Quelqu'un construit une chaise. Donc, il va dans la forêt, il prend un arbre, il le coupe, il construit une chaise. Est-ce que vous pensez qu'il va prendre cette chaise et la remettre dans la forêt autour des arbres parmi lesquels il a pris le bois pour faire cette chaise? Ou est-ce que vous pensez qu'il va prendre cette chaise et vouloir l'utiliser pour la mettre autour d'une table et qu'elle serve vraiment? Et nous sommes un peu comme cette chaise. Nous n'avons pas été coupés dans cette forêt, nous n'avons pas été taillés pour pouvoir retourner dans cette forêt et faire comme si de rien n'était. Nous sommes cette chaise et nous avons été pris pour pouvoir être mis autour de cette table et servir celui qui nous a fait, servir celui qui nous a façonné, Jésus-Christ. Nous devons considérer le péché comme quelque chose d'important et ça n'est pas anecdotique dans notre vie. Nous devons comprendre l'influence du péché sur notre vie. Et nous devons lutter contre cela pour pouvoir vraiment être dans le plan de Dieu pour notre vie sur cette terre. Nous avons un programme qui est chargé, n'est-ce pas? Quand on voit ce programme, on se dit « mais je ne peux rien faire par moi-même ». Et c'est une vérité. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Mais Dieu va nous donner la possibilité de pouvoir faire de grandes choses parce que c'est lui qui nous transforme. C'est son œuvre et il nous demande d'y participer. Rick Warren a utilisé cette image dans l'un de ses livres en disant que quand on est sur la voie du péché qui mène à la mort, on est comme sur un bateau qui fonce droit vers une cascade ou un précipice quelconque. Et donc finalement, on a beau lutter de toute notre force pour essayer de tourner la barre. Dès qu'on a la moindre faiblesse, dès qu'on a le moindre coup de barre, hop, on revient dans la direction qui nous mène au précipice. Et lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie, c'est un changement à 180 degrés. C'est Dieu qui prend la barre, et nous avons simplement à la maintenir avec lui, pour rester dans le chemin que lui nous a tracé. Ça, c'est une première chose. Par la mort de Christ, nous sommes morts au péché. Et on voit un deuxième point qui arrive. Nous sommes baptisés en Jésus-Christ. Et c'est au verset 4 qu'il nous dit ça. Paul commence en disant « Ignorez-vous que ?» Donc Paul résume la pensée que par la grâce, on peut se laisser aller au péché. Ce serait de l'ignorance. « Ignorez-vous que ?» Au verset 4 et 5, on voit que Paul explique cette expression du baptême avec Jésus-Christ. Le baptême avec Jésus-Christ, ça signifie une union avec Jésus-Christ. Mais cette union est profonde. Cette union va loin. Pourquoi ? Parce qu'elle nous demande de porter sur le péché le même regard que Jésus-Christ a sur le péché. Elle nous demande d'avoir cette vision du péché qui est la même que celle que Jésus-Christ combat. Il est mort sur cette croix pour ce péché. Et nous devons avoir cette même vision du péché. Lorsque nous sommes morts avec Christ et que nous sommes unis avec lui, baptisés en Jésus-Christ, il y a cette notion que le jour du jugement, nous ne retrouverons pas devant le trône avec notre ancien casier, en disant, ben voilà, je viens tel que je suis, et Dieu dit, ouais, mais toi, t'es fautif, t'es pécheur, et je te condamne. Non, nous sommes une nouvelle personne. Celui que nous étions n'est plus en ligne de compte. Sur le livre de Dieu, il a été rayé, il n'en est plus fait mention. Et nous sommes désormais déclarés justes. Nous sommes déclarés justes par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous prenons pour nous son sacrifice. Et c'est ce qui nous permet d'être déclarés justes. On parle de Jésus-Christ qui nous impute sa justice. C'est la justification. C'est vraiment Jésus-Christ qui a fait ce qu'il fallait pour que nous puissions être déclarés justes aux yeux de Dieu. C'est comme si un homme avait une grâce présidentielle. Il sortait de prison, et qu'à sa sortie de prison, les policiers venaient le choper et dire « Mais t'as pas fini de purger ta peine ?» Quelle peine ! La grâce a été faite à cet homme. Combien plus grande est la grâce de Dieu à notre égard ? Vous ne pensez pas que la grâce de Dieu est bien plus grande que la grâce des hommes ? Et si Dieu nous a pardonné notre péché, ce Dieu qui est si grand, quand on met les choses en perspective, notre Dieu qui est créateur, parfois quand on parle de Dieu au ciel, on l'imagine caché derrière un petit bout de nuage. Mais Dieu est bien plus grand que cela, Dieu est créateur, Dieu est au-delà de la création. Et ce Dieu si grand, qui a pris soin de nous si petits, pour pouvoir venir nous sauver, c'est lui-même qui a pourvu au sacrifice. Et il est venu nous offrir une possibilité d'être en communion avec lui, d'être vraiment en harmonie et dans la joie avec lui, par Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Paul dit par la suite que nous avons été ensevelis avec Christ. Et là, la coupure est nette. Quand on parle d'ensevelissement, on peut penser à l'enterrement, on peut penser au deuil. Et la question se pose, avons-nous réellement fait le deuil de notre vie passée ? N'avons-nous jamais eu cette petite réflexion qui disait « Ah, si j'étais pas chrétien, là, j'aurais pu faire ça. » Ou alors, avant, quand j'étais pas chrétien, je pouvais faire ça ou ça. N'avons-nous jamais eu cette réflexion ? Est-ce qu'on a vraiment fait le deuil de notre vie passée ? Est-ce qu'on a vraiment compris que par le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes appelés à mener une nouvelle vie ? Et nous n'avons pas à regretter la vie ancienne que nous avions. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie triste ou morose, c'est une vie de joie. Une vie de joie où nous pouvons enfin être en communion avec notre Père Céleste. Il n'y a rien de pire que d'être séparé de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ a éprouvé sur la croix quand il a porté notre péché. C'était la pire souffrance qui soit, au-delà de toutes les souffrances physiques qu'il a endurées. Et nous, si nous comprenons cela, que nous avons enfin cette harmonie qui est restaurée avec le Père, lorsque le péché est entré dans le monde, il y a eu une déchirure, quelque chose qui s'est cassé entre Dieu et les hommes. Et par Jésus-Christ, nous pouvons enfin réunir les deux bouts. Et ça, c'est quelque chose de magnifique pour nous. Nous avons la joie de la communion avec Christ. Et si nous avons vraiment fait le deuil de cette vie passée, alors nous comprenons que nous sommes maintenant dans une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie a des implications. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous sommes appelés à vivre une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Et Paul continue en disant « Nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes une nouvelle créature. » Et cela change tout. Nous sommes une nouvelle créature. Et cette créature a quelque chose de particulier, c'est qu'elle n'est plus soumise au péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. La particularité de ce point est vraiment capitale pour notre façon d'appréhender la grâce de Dieu dans notre vie. Nous ne sommes plus obligés de pécher. Nous pouvons nous pouvons dire non au péché. Cela est logique quand on y réfléchit. Comme on l'a dit, Dieu nous appelle à un chemin de sanctification. Dieu nous appelle à lutter contre le péché. Pourquoi il nous appellerait à lutter contre le péché si le combat était perdu d'avance ? Si Dieu nous appelle à lutter contre le péché, c'est qu'il peut, nous donner les moyens de lutter contre ce péché. Et cela revêt deux aspects. Premièrement, comme on l'a dit, nous ne sommes plus condamnés par le péché. C'est le premier aspect. Nous ne sommes plus condamnés à aller en enfer à cause de notre péché. Et le deuxième aspect, c'est que si nous saisissons vraiment la portée du sacrifice de Jésus-Christ pour notre vie, si nous comprenons que nous ne sommes plus esclaves du péché et que nous avons la réalité de cette nouvelle vie qui s'offre à nous, alors il va forcément y avoir un changement dans notre vie. Le sacrifice de Jésus-Christ, sa grâce, n'est pas un simple billet pour la vie éternelle. C'est quelque chose qui nous appelle à changer. C'est un appel à marcher dans une nouveauté de vie. Et Dieu, par sa grâce, nous donne les moyens de vivre dans cette nouveauté de vie et de dire enfin non au péché. L'un des plus grands mensonges de Satan, c'est de nous faire croire que quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix. On n'a qu'à pécher maintenant. De toute façon, si tu ne le fais pas maintenant, tu le feras plus tard. Ça, c'est l'un des mensonges que Satan nous donne. Et en fait, quand on réfléchit, voilà, on sait pourquoi c'est un mensonge. Parce que Dieu nous dit que nous ne sommes plus obligés de pécher. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus jamais pécher ? Malheureusement, non. Parce que nous sommes humains, nous sommes faibles. Mais ce n'est pas une excuse. La grâce n'est pas un permis d'immoralité. La grâce n'est pas un permis d'immoralité. Ce n'est pas parce qu'on a la grâce qu'on peut se dire « de toute façon, je suis condamné à pécher ». Dans cette notion de lutte, j'aime me dire qu'une année ne fait pas 365 jours. Et on peut se dire « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Une année ne fait pas 365 jours. Pour moi, je me dis qu'elle fait 365 fois un jour. Une année fait 365 fois un jour. Pourquoi ? Parce que Dieu va m'aider à lutter chaque jour, l'un après l'autre. Je ne me préoccupe pas de ce qui va se passer demain. Je ne me préoccupe pas de savoir si je vais tomber demain. Ce que j'essaie de me dire, c'est qu'aujourd'hui, Dieu est avec moi. À chaque jour suffit sa peine. Et demain, je le vivrai aussi avec Jésus-Christ. Peut-être que je tomberai demain. J'en sais rien. Parce que pour l'instant, je me préoccupe de maintenant. Mais si je tombe, et si j'ai vraiment compris la grâce de Dieu pour moi, alors je peux revenir au siège de la grâce. Je peux revenir à la croix de Jésus-Christ. Lui confesser mes péchés et savoir que quoi qu'il arrive, ce n'est pas une confession que je fais pour pouvoir continuer à pécher derrière. C'est une confession parce que je regrette profondément mon péché et que je cherche à continuer à marcher en nouveauté de vie avec lui. Vivre en profitant de la grâce et en ne luttant pas contre le péché par la force que Dieu donne, cela révèle en nous un amour du monde et un amour des choses du monde. Si Dieu nous a arrachés des ténèbres, ce n'est pas pour que nous y retournions. Dieu nous a pris des ténèbres et nous a amenés à la lumière. Et la vie dans la lumière vaut tellement mieux que la vie dans les ténèbres. Et c'est ce que Dieu nous appelle à vivre. Il nous donne la possibilité de le vivre, car il a payé le prix de son Fils sur cette croix pour cela. Nous ressemblons parfois à un enfant. Un enfant que son père a pardonné, et dès qu'il a été pardonné, il retourne faire la bêtise pour laquelle il vient d'être pardonné. Et si c'est le cas, cela révèle chez nous une profonde incompréhension de ce qu'est le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu ne nous appelle pas à dire « voilà, ça c'est fait, maintenant tu peux faire ce que tu veux ». Le pardon de Dieu nous appelle à un changement radical dans notre vie. Et je pense que notre vie révèle la valeur que nous accordons au sacrifice de Jésus-Christ. C'est vraiment quelque chose qui doit être ancré en nous. Si nous avons vraiment compris la grâce que Dieu nous a faite, alors cela doit se voir dans notre vie. On pourrait penser à un arbre. Un arbre qui dit « je suis un pommier ». On pourrait dire « c'est bien beau que tu dises que tu es un pommier ». Mais si tu es vraiment un pommier, tu vas produire des pommes. Peut-être pas en toute saison, peut-être qu'il y aura des moments difficiles, mais tu vas forcément produire des pommes. Et si je dis que je suis un pommier et que je ne produis jamais aucune pomme, je peux me poser des questions sur la réelle nature de ce que je suis. Et si j'ai vraiment décidé de marcher en nouveauté de vie avec Christ, et que je me complais dans le péché, et que je prends la grâce comme une excuse pour vivre dans le péché, je peux me poser de réelles questions sur le pas de foi que j'ai fait avec Dieu. Nous sommes l'argile, la parole nous dit, et Dieu est le potier. À nous d'accepter de faire ce pas et de venir sur le tour du potier pour pouvoir nous laisser façonner par Dieu. C'est une transformation qui est opérée par Dieu et qui se fait avec notre accord, qui se fait avec notre bonne volonté de vouloir le faire, de vouloir marcher avec Christ. Dieu nous appelle à être participants à cette transformation. Et c'est quelque chose d'important. Au verset 11, Paul nous dit « Nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes désormais vivants et notre vie a pour objectif de glorifier Dieu. » La bonne nouvelle, c'est que cette vie est en Jésus-Christ. Nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est une vie qui a un sens nouveau. Et dès le début de cette nouvelle vie, nous avons l'assistance du Saint-Esprit. Par notre union à Christ, nous avons la possibilité de vivre pleinement cette nouvelle vie. Et cela, c'est par notre union à Christ, comme nous l'avons dit quand nous avons dit que nous sommes baptisés en Jésus-Christ. Nous sommes vivants. N'est-ce pas merveilleux ? Nous sommes vivants. Est-ce que ça, c'est une réalité ? Est-ce qu'on en a conscience ? Nous ne sommes pas morts. Le péché nous conduit à la mort, mais nous, nous sommes vivants. Quelle grâce le Seigneur nous fait de pouvoir être vivants et de pouvoir vivre cette vie éternelle avec lui. Ça, c'est quelque chose, quand on y pense, ça nous réjouit le cœur. Quelle merveille ! Nous sommes vivants. Et c'est grâce à Dieu. Jésus a dit « Je suis la vie ». Et la grâce qu'il me fait, c'est vraiment de bénéficier de cette vie. Et bénéficier de cette vie en abondance. Et ça, c'est Jean, chapitre 10, verset 10, qui nous le dit. Nous pouvons vivre cette vie en abondance. Paul dit que nos membres, dans la suite de ce passage, Paul dit que nos membres ne doivent pas être des instruments de l'injustice, mais des instruments de justice. Quand on prend cette image avec une hache, on peut construire ou on peut détruire. Et par nos actions, par notre attitude, nous pouvons servir de bonne ou de mauvaise cause. Et par chaque partie de notre corps, nous pouvons choisir d'honorer et de glorifier Dieu ou de le déshonorer par notre attitude. Et c'est vraiment quelque chose que nous devons comprendre aussi. Si nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ, nous sommes appelés à l'honorer et à le glorifier dans chacun des aspects de notre vie. Et la question qui peut se poser, c'est qu'allons-nous choisir ? En notre âme et conscience, si nous avons compris la grâce de Dieu pour nous, qu'allons-nous choisir ? Si nous revenons à ça, au verset 14, Paul y revient, et donc c'est un rappel fondamental pour nous, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et quand on voit en fait ce qu'il est dit dans ce passage, on voit que nous étions sous la loi. Mais désormais, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et la loi avait cela de particulier qu'elle mettait en évidence le péché de l'homme. Elle mettait en évidence le péché dans la vie de l'homme. Et elle pointait vraiment ce qui n'allait pas. Elle agissait un peu comme un diagnostic. Un diagnostic n'apporte pas de remède définitif. Un diagnostic pose le problème. Il dit voilà, là il y a le péché. Et Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est le remède. Et sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire, comme il nous a été rappelé ce matin. C'est aussi écrit en Jean chapitre 15, verset 5. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Matthieu 5, 17 nous dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Nous ne sommes plus sous le jugement de la loi. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ, qui était parfait, a pu accomplir parfaitement la loi pour nous. Et il nous a imputé sa justice. Ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est parce que Jésus-Christ, lui, est parfait, que nous pouvons être déclarés justes aux yeux de Dieu. Alors, nous arrivons à une deuxième partie, et je vous rassure, elle sera plus courte que la première. Allons-nous pécher parce que nous ne sommes plus sous la loi ? Et c'est une question qui pourrait se poser. Et Paul répond encore une fois, loin de là. La loi est bonne. Romains 7, 16 nous le dit. La loi est bonne. La loi a été donnée par Dieu. Jésus lui-même nous enseigne à suivre les 10 commandements. Mais il peut y avoir une mauvaise compréhension de notre changement de régime, sous la loi, sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, c'est une vérité. La loi était impossible à respecter par nous-mêmes. Elle était bien trop dure. Le peuple d'Israël était obligé de revenir sans cesse au niveau des sacrifices pour pouvoir continuer à suivre la loi, parce que c'est trop dur à suivre par nous-mêmes. Mais Dieu nous a déclarés justes et nous donne la possibilité de vivre une vie où nous pouvons l'honorer par Jésus-Christ et pouvoir continuer à avancer. Nous ne sommes plus sous le jugement de la loi, mais nous sommes sous la grâce. Cela ne vient pas de nos efforts à nous pour respecter la loi. Ce salut ne vient pas de nous. Cela vient du fait que la grâce nous a été faite. Et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est pour cela que, si on va plus loin sur ce sujet, on peut voir Romains chapitre 8, verset 3, qui l'explique très très bien. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant en cause du péché son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. » C'est Dieu lui-même qui a fait ce qu'il fallait pour que, là où la loi pointait le péché, Dieu apporte une solution. Et cette solution, elle est en Jésus-Christ. Et pour nous, c'est quelque chose de capital à comprendre. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Je ne vais pas beaucoup m'étendre davantage sur ce sujet, puisque la loi sera un sujet qui sera traité dans la suite des prédications suivies par Stéphane Kaufmann dans 2 semaines. Mais si Paul, et a fortiori Jésus, déclare que la loi est bonne, alors nous ne devons pas agir à l'encontre de cette loi. Nous n'allons pas obéir à la loi parce qu'elle nous sauve. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Le but de l'obéissance n'est pas pour être sauvé. Le but de l'obéissance, c'est parce que nous sommes sauvés. Et là, on touche du doigt la différence entre le légalisme et la sanctification. Le légalisme, c'est l'obéissance pour accéder au salut. Alors que la sanctification, c'est l'obéissance, parce que nous avons déjà obtenu le salut par Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Nous avions pour maître le péché. Nous étions asservis au péché. Et désormais, nous sommes esclaves de la justice. On n'a plus besoin de cette idée du bâton et de la carotte comme le pensaient les judaïsants. Parce que désormais, on sait pourquoi on fait les choses. Parce que nous sommes esclaves de la justice. Une fois libérés, c'est au verset 18, une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Est-ce que c'est une vérité pour nous dans notre vie? Est-ce que nous considérons vraiment cela? Nous sommes esclaves de la justice. Nous ne pouvons pas laisser le péché régner en nous, en prétendant que ça n'est pas grave, parce que nous sommes désormais esclaves de la justice. La neutralité n'est pas une option. Et Paul combat cela. L'idée que, finalement, on pourrait ne pas choisir de camp. Non, la neutralité n'est pas une option. On ne peut pas être comme une personne sur un champ de bataille qui se bouche les oreilles en disant « Non, les bombardements, là, je ne les entends pas, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas là. » Le combat est là. Le combat est là. Et on ne peut pas être neutre face à cela. Est-ce qu'on va vraiment décider de laisser le péché agir? Ou est-ce que parce qu'on a été sauvé, parce qu'on a changé, parce qu'on est dans une nouveauté de vie, alors on va accepter que Jésus-Christ peut nous aider à vivre une nouvelle vie? Christ a triomphé du péché à la croix. Et ça, c'est une vérité fondamentale. On le répète souvent, mais c'est tellement important de le comprendre. Christ a triomphé du péché à la croix. Christ est notre roi, la justice est notre étendard. Et nous connaissons déjà l'issue de la bataille. Mais est-ce que nous allons accepter de prendre les armes dans cette bataille? Si on résume tout ce qu'on a dit aujourd'hui, la grâce de Dieu nous libère de la mort et du péché. C'est quelque chose d'important à saisir. Et si elle nous a libérés, nous ne sommes donc plus esclaves du péché. Nous sommes appelés à y résister. Et nous sommes aussi appelés à nous laisser transformer par Dieu. Il n'y a aucune raison de laisser le péché s'étendre dans notre vie, car c'est Dieu lui-même qui nous donne la force de lutter. Ça n'est pas une fatalité. Le péché n'est pas une fatalité. Et par nos vies, désormais, nous pouvons enfin glorifier Dieu. Et ça, c'est une nouvelle merveilleuse. Nous pouvons, par nos vies, glorifier Dieu. Aujourd'hui, nous avons parlé de nombreuses choses. J'aimerais vraiment qu'on retienne ces points-là. Nous avons parlé de grâce, nous avons parlé de justice. Et si on réfléchit bien, certaines personnes ne saisissent pas pleinement cette grâce pour eux. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que cela fait de Dieu un Dieu injuste? Et je laisserai Joe Lalomia répondre à cette question la semaine prochaine. Merci de votre attention.